Seigneur, c'est à tes pieds que nous sommes assis pour t'offrir nos louanges et notre adoration. Et c'est aussi à tes pieds que nous sommes assis pour recevoir le message de la vie. Message que tu envoies autant pour les adultes que pour les enfants. Ce matin, nous avons partagé ta parole aux plus jeunes qui se sont montrés attentifs, pleins d'intérêt pour les choses de Dieu. Et nous voulons te recommander, Seigneur, ceci entre tes mains également, que tu puisses les abreuver de ta parole, car leur jeune âme a besoin d'être sous ton contrôle. Et nous voulons te prier ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Il y a 2 semaines de cela, j'ai commencé à aborder une question sur la notion de la grâce dont nous sommes établis serviteurs dans le cadre de la nouvelle alliance en Dieu, que parfois nous en avons la connaissance sur le plan intellectuel, mais dont on a de la peine à vivre pleinement la substance pour en être témoin. On ne peut être témoin de quelque chose qu'on ne vit pas. C'est impossible. Pour pouvoir témoigner, il faut vivre les réalités de Dieu. Et aussi réelles que sont nos difficultés que nous traversons, aussi Dieu l'est. Dieu est réel. Ce n'est pas parce que nous ne le voyons pas que nous sommes amenés à douter. L'air que nous respirons, nous ne le voyons pas. Cependant, nous sommes en vie grâce à cet air que nous respirons. Et dans une moindre mesure, Dieu est ainsi. On peut vivre avec lui jusqu'à ne plus en avoir conscience. Et pourtant, nous sommes avec lui. Et c'est de cela dont il est question. Et je vais terminer la dernière partie que j'avais suspendue un peu brutalement. Aujourd'hui, nous entamons notre vie en Christ avec la grâce de Dieu. Car la Bible dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et cela ne vient pas de nous, mais c'est un don de Dieu. Cette grâce c'est défini comme étant une faveur accordée à un bénéficiaire qui ne le mérite pas, envers les pécheurs indignes que nous sommes et qui méritaient condamnation et à qui Dieu a fait grâce. Ainsi, nous avons 2 textes ou 3 textes à lire. Éphésiens chapitre 2, versets 7 à 8, que j'ai cité tout à l'heure, je le relis pour une meilleure audition. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Alors, je fais la différence entre les œuvres et le travail de Dieu. Je fais la différence entre les œuvres bonnes, écoutez bien, et les bonnes œuvres. Ce n'est pas la même chose. Les œuvres bonnes, c'est ce que Dieu a créé d'avance pour nous. Nous en étions écartés à cause du péché. Mais lorsque Jésus est venu nous rejoindre, il nous ramène dans la trajectoire qui est celle de Dieu. C'est pour ça qu'il est nécessaire de savoir quel est le plan de Dieu pour moi, personnellement, pour que je sois amené à pratiquer les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour moi. Faire des bonnes œuvres, ce n'est pas méchant. Ça ne gêne pas le diable, les bonnes œuvres. Donner de l'argent aux gens, faire de l'aumône, faire tout ça, ce n'est pas un problème. Mais est-ce que c'est le plan de Dieu pour moi? Si ce n'est pas le plan de Dieu pour moi, le diable ne vous gênerait pas. Mais si vous commencez à faire des œuvres bonnes que Dieu a préparées pour vous, vous commencez à le rencontrer. Là, on rentre dans la science fine des enfants de Dieu. Ce n'est point par les œuvres que vous êtes sauvés, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Et je crois que les théologiens dans la traduction, ils se mélangent les pédales. C'est quand on fait une analyse d'origine qu'on s'aperçoit que la traduction est assez biaisée. La grâce de Dieu est plus qu'un attribut divin. C'est une personne divine, Jésus-Christ, qui est non seulement le Dieu incarné, mais on pourrait ainsi dire la grâce faite chair. Ainsi, dans Jean chapitre 1, verset 17, vous commencez à connaître ce verset par cœur. « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Jésus personnifie et exprime lui-même la grâce. Car de lui, tout transpire la grâce divine. Il est source du salut pour tous les hommes. Et nous en arrivons à un verset qui a fait l'objet de la convention il y a 2 ans, sur lequel je suis déjà intervenu, mais je ne suis pas allé au fond de ma pensée, parce que les choses de Dieu assez subtiles nécessitent qu'on s'y attarde et prenne du temps pour clarifier les points d'équivoque et de mieux comprendre. Je cite ce verset, Tite chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Il y a 200 ans, voire plus, c'était encore la coutume en France d'envoyer des criminels aux galères. Pour de longues années, et parfois, on les envoyait en galère à perpétuité. Les galériens, c'était ce qu'on les appelle, ainsi enchaînés à leur banc, avec seulement assez de place pour actionner les rames. Voilà qu'un diplomate de distinction fut amené à visiter une ville, ce n'est rien d'autre que la ville de Toulon, où les galères étaient à l'ancre, et selon l'usage, il pouvait libérer le prisonnier de son choix. Il s'approcha des galériens, le diplomate, parla avec eux et s'enquit des raisons qui les avaient amenés à être en prison. Il découvrit que presque sans exception, les prisonniers attribuaient leur condamnation à quelques injustices, à des fausses accusations, à des erreurs d'identité, soit à des méprises ou aux mauvaises foi des juges. Il est arrivé auprès d'un autre, il lui dit, et cet autre qui répond au diplomate, « Moi, j'ai été un criminel endurci. J'ai mérité la mort. Et c'est là que par la grâce de Dieu que je suis là, je ne sais pas pourquoi ils ne m'ont pas tué. » Et je me contente d'être un galérien. Misérable canaille, lui dit le diplomate. Votre présence ici contamine tous ces braves et honnêtes gens. Vous ne resterez pas ici un seul jour de plus. Se tournant alors avec sourire vers son escorte, il lui dit, voici l'homme que je cherche. C'est celui que je vais gracier. Il est tellement pestiféré que si je le laisse parmi les autres prisonniers, il va le contaminer. Sortez-le. Et c'était ainsi que cet homme a retrouvé la liberté. Quelle en est la leçon? On retrouve cette leçon dans Proverbes chapitre 28, verset 13. Je cite, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Les autres ont voulu cacher ce qu'ils ont fait de mal, mais lui, il s'est mis à nu devant celui qui veut le gracier. Et celui donne la possibilité d'apprécier la grâce. Parce que les autres qui ont nié leurs conditions, si on leur donne la liberté, il dira que dans leur cœur que c'est justice qui est faite finalement. Mais celui qui reconnaît mériter la mort et à qui on donne grâce, il saura l'apprécier. Voilà, je donne cet aspect pour que nous puissions comprendre la profondeur de la grâce que Dieu nous donne. Ce mot est souvent fréquent dans notre bouche, au point que, à force de le prononcer, ce mot-là perd sa force, perd sa puissance. Et si quelque part vous voulez vraiment rentrer dans la réalité du cœur du Seigneur, souvenez-vous, un temps soit peu, de cet exemple. Je ne mérite rien. Je mérite que la colère, bien au contraire. Mais Jésus s'est interposé comme un paratonnerre pour absorber la colère de Dieu et pour me donner sa vie. Voilà pourquoi nous sommes en vie à cet instant. Que le Seigneur vous bénisse. La grâce de Dieu qui sauve. La grâce de Dieu. Celle qui s'exerce envers celui qui se considère indigne à ses propres yeux. Mais la grâce nous enseigne également, et c'est là où je vais insister. Ce n'est pas parce que la grâce de Dieu est une faveur imméritée que je serai censé de faire ce que je veux. Non. Ce que nous faisons, c'est parce que nous sommes victimes du péché. Notre personnalité, dès l'origine, a été tordue par la présence du péché qui pervertit tout en nous, même nos sentiments les plus profonds. Même nos émotions les plus profondes, y compris même nos réflexions les plus logiques. Mais la grâce de Dieu vient s'emparer de tout notre être, esprit, âme et corps, et les fait converger dans le plan du Seigneur. Et pour cela, il nous enseigne. Alors, commençons par la grâce qui sauve, qui ne serait qu'un rappel. Comme nous le disons, c'est la faveur qui est accordée à celui qui mérite la mort, mérite un jugement. La grâce a été manifestée pour exprimer les pensées de Dieu. Il a été exprimé pour mettre en lumière ce que Dieu veut pour l'être humain. Si d'aventure nous vivions encore dans la crainte d'un lendemain incertain, si d'aventure nous vivions encore dans la crainte de la mort, sans savoir ce que nous réserve l'avenir, la bonne nouvelle, c'est que la grâce de Dieu a été manifestée pour nous arracher à l'incertitude du devenir et de l'avenir, mais pour nous ouvrir une perspective lumineuse, comme il a été si bien dit dans l'introduction de la liturgie. En ce sens que Jésus a fait ressortir le but rédempteur de Dieu. Cette grâce qui est la seule planche de salut pour le condamné, c'est elle seule qui peut transformer le jour du jugement en jour de délivrance. Et en Jésus, nous avons été arrachés des forces des ténèbres, délivrés des puissances sataniques pour nous établir dans son empire, qui est l'empire de la grâce et l'empire de l'amour. Oui, cette grâce a été rendue publique. Elle a été manifestée au travers de Jésus-Christ, qui a mis fin à l'empire de la loi et qui ouvre une perspective qui est la plus haute de la grâce et de la justice, qui va de pair avec la vérité. Cette période a été une période difficile pour les pharisiens. Souvent, nous jetons la pierre aux pharisiens parce que nous nous sommes dit que c'est des hypocrites, certes. C'est ce qu'ils sont devenus par la suite pour n'avoir pas vu l'ère de la grâce que Jésus-Christ a apportée. Les pharisiens, à l'époque, c'était eux qui défendaient la loi de Dieu. C'est grâce à eux que les lois de Dieu, les 613 lois, qui découlent à partir de la décalogue d'Exode chapitre 20, c'est à cause d'eux, ou c'est grâce à eux, que la loi de Dieu a été préservée contre les envahisseurs. Mais leur défaut, c'est que ils n'ont pas eu les yeux ouverts qu'une période est en train de basculer entre la période de la loi et la période de la grâce, incarnée par Jésus. Et ils commençaient à combattre la grâce. Ils étaient l'incarnation de la religion. Ils étaient l'incarnation de ce qui est routinier. Ils étaient l'incarnation du légalisme qui, face à la religion de la grâce, rentre en conflit. Et nous tous ici, d'une manière ou d'une autre, nous avons appris à ne pas faire ceci, à ne pas faire cela, à ne pas faire ceci, à ne pas faire cela, pour plaire à Dieu. À première vue, ça paraît bien, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est du légalisme. Mais vous me dites, Seigneur, pasteur, si c'est du légalisme, qu'est-ce qu'on fait? Mais on va faire la même chose, mais cette fois-ci, inspiré autrement. Si c'est parce que j'aime Dieu, si c'est parce que je suis attaché à la vérité, si c'est parce que Jésus est venu transformer tout mon être, mes motivations, et que je ne fais pas ceci par amour pour Dieu, et que je ne fais pas ceci par amour pour Dieu, les motivations sont différentes. Là, je suis dans le vrai. Voilà la différence. Or, il y a des gens, parfois, qui s'emploient à faire de bonnes choses pour sembler gagner un tout petit peu de faveur de Dieu. Ce n'est pas biblique. C'est religieux. Ce n'est pas chrétien. Ah oui, il faut que j'y aille là. Je vais casser l'esprit religieux qui empêche la grâce de Dieu de se manifester dans nos vies. L'esprit religieux omniprésent. Faisons les choses par amour du Seigneur. Le royaume de Dieu s'articule autour de l'amour, pas la sainteté, pas la sainteté. Toutes les religions au monde promeut la sainteté, mais pas l'amour. Dieu, il est le Dieu d'amour. Et l'amour absorbe le péché. Il est le premier à nous avoir aimés, sachant qui nous étions et qui nous sommes. Voilà la grâce. En Jésus-Christ, Dieu est venu vivre la vie des hommes. Il a parlé des choses du ciel dans le langage des hommes pour se faire comprendre d'eux et leur faire comprendre la grâce de Dieu. Dieu s'est fait homme. Ainsi, cette grâce est destinée à réveiller ma conscience et doit me pousser à confesser mes fautes. Il m'amène dans la lumière de la présence de Dieu qui s'occupe de moi avec amour. Par la grâce, l'amour de Dieu se penche favorablement vers nous, chacun. Il nous tend la main pour nous tirer de là et pour nous amener vers lui. La grâce de Dieu ne se mérite pas, ni par nos efforts, ni par nos bonnes œuvres. Et encore moins par nos bonnes résolutions. Alors, ça appelle une explication. Ça m'est arrivé. Si je l'avais compris plus tôt, je n'aurais pas dû perdre du temps. Et si vous estimez que ça vous arrive, prenez une bonne position et Dieu va rattraper le temps que vous avez perdu. Je m'explique. Quand Dieu nous a fait venir au monde, il ne nous a pas fait venir au monde simplement pour produire, manger, jouir du monde et puis s'en aller. Non. Dieu nous a fait venir au monde pour un but bien précis. Il veut qu'au travers de nous, son règne vienne. Je m'arrête là. J'expliquerai plus tard. Mais Il faut que je sache pour quelle raison Dieu m'a envoyé. Quelle est l'intention de Dieu? Quel est le but de Dieu? Je vais beaucoup plus loin. L'opticien, quand il fait les lunettes, c'est pour que nous puissions bien voir. Pour ceux qui ont des difficultés de vue comme moi. Celui qui a créé une voiture, il voulait que les gens se déplacent avec la voiture, rapidement. C'est son intention. Le pharmacien qui a créé des oligo-éléments, compléments alimentaires, c'est pour ceux qui manquent des éléments pour qu'ils puissent manger. Toute chose qui a été créée a un but. Et pour un but. Et Dieu ne peut pas se planter de te faire venir au monde pour rien. Non, tu as un but précis. Et tant qu'on n'aurait pas compris ce but pour lequel Dieu nous envoie, on va avoir des problèmes. Parce qu'il est dit dans la Bible, surtout dans Proverbes, chapitre 19, verset 21, qu'il s'agite dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est seul le dessein de Dieu qui s'accomplit. Dans notre vie, nous avons beaucoup de projets. Nous avons envie d'habiter là où nous voulons, nous avons envie de faire le métier que nous voulons, nous avons envie de faire marier nos enfants comme nous voulons manger le repas comme nous voulons faire tout ce que nous voulons. Ça, c'est un projet humain. Mais de tout cela, il y a un que parfois nous ignorons et qui entre en convergence avec le plan de Dieu. Tant que nous n'aurons pas trouvé ça, notre projet va rentrer en conflit avec le projet de Dieu et la guerre commence. Jusqu'à ce que Dieu triomphe. Plus on le comprend, plus on se soumet à la volonté du Seigneur, plus la traversée du désert est courte et nous arrivons de l'autre côté là-bas. Voilà ce qui explique un tout petit fait les zones de turbulence que beaucoup traversent. Puisque leur projet rentre en conflit avec le projet de Dieu. Mais si votre projet rentre en conflit avec le projet de Dieu, je n'ai juste qu'un conseil à vous donner. Rendez-vous vite. Rendez-vous le plus rapidement possible. La grâce apporte le salut. Les enfants de Dieu ont besoin de redécouvrir le travail accompli par Christ pour le salut. Et Dieu, Christ dit ceci, « Je fais l'œuvre de Dieu. » L'œuvre. Faire l'œuvre, c'est autre chose. Faire l'œuvre de Dieu, c'est rentrer en convergence avec le plan du Seigneur. Nous avons besoin d'être revisités par la grâce, mes bien-aimés. Dieu nous l'a accordé non seulement pour commencer une vie nouvelle, mais nous pouvons poursuivre cette vie que nous avons obtenue de la part de Jésus par la grâce. On ne peut pas continuer à vivre une vie chrétienne en dehors de la grâce pour l'avoir obtenue par la grâce. Si nous avons obtenu la vie par la grâce, continuons à vivre par la grâce. Et nous allons sortir du théâtre de ce monde aussi par la grâce. J'en arrive à un point qui est très important. La grâce qui enseigne. Il y a beaucoup d'enseignants au milieu de nous. On aurait pu créer une école chrétienne pour nos enfants. On sait ce que c'est qu'enseigner. Communiquer une instruction, un savoir, pour combattre l'ignorance. Jésus a passé le clair de son sang à enseigner. La foi grandit avec l'enseignement de la parole. Comment voulez-vous que votre foi grandisse quand on n'est pas exposé à la parole? Dites-moi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et tout est fait pour que nous soyons exposés à autre chose que la parole de Dieu. Et notre ennemi, il n'est pas bête. Il est très intelligent, le diable. C'est les pécheurs qui passent, mais lui, il est toujours là depuis le commencement des temps. Il va élaborer comme un jeu d'échecs du 10, 15, 20e degré et puis on rentre dans le tunnel sans le savoir. Et il pompe notre énergie, il disperse notre attention. Le temps qui est un capital utilisé pour rechercher la volonté de Dieu par la prière, il le pompe par-ci, il le pompe par-là, la télé par-ci, les événements par-là et on prend moins de temps de nous concentrer à être enseigné par Dieu. L'enseignement, écoutez bien, c'est l'œuvre de Dieu. Écoutez la parole de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas du temps perdu. C'est pour dire que la mission de nous en tant que chrétiens, c'est de prendre soin de l'Église dont nous faisons partie. C'est ça qui doit être au sommet de nos efforts. Cependant, il peut pleuvoir. Je me force d'aller au travail où je gagne mon pain avec. Il peut tomber de la neige ou des situations critiques, je ne cherche pas le moyen de gagner mon travail. Vous voyez à quel point nous utilisons de l'énergie pour le travail séculier et nous en consacrons peu pour ce qui concerne le salut. Est-ce que vous le savez? Travailler non seulement pour la nourriture qui périt, mais travailler pour la nourriture qui demeure éternellement. La grâce nous enseigne à renoncer au genre de vie ancien, à l'impiété, aux convoitises. La grâce nous enseigne à adopter un genre de vie nouveau qui correspond aux citoyens du ciel sur terre. Parce que la volonté de Dieu, c'est de prendre les valeurs du ciel dont il est roi, de le transposer sur la terre dont nous sommes les intendants. Donc c'est par nous que le règne et la gloire de Dieu se manifestent. Voilà notre mission. On vient pour coloniser la terre, transposer les valeurs du royaume ici, puisque nous le disons nous-mêmes dans notre prière. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au. Voilà le but de Dieu. Dieu nous a envoyés pour coloniser la terre avec les valeurs du ciel. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes des ambassadeurs. Vous savez ce qu'est un ambassadeur? D'abord, c'était le milieu qui m'intéressait beaucoup, le milieu politique. Le Seigneur m'a arraché de justesse. C'est ce qui explique un tout petit peu mon entêtement entre les mains du Seigneur. C'était la politique qui m'intéressait, moi. Mais j'ai pris tellement de coups que finalement j'ai compris la leçon très tard. Être ambassadeur, c'est être représentant de son pays, avec l'autorité de son pays. Vous avez un mandat sur vous là. Ce que vous dites engage votre pays. Ce qui sort de votre bouche engage celui que vous représentez. Et donc l'Église de Christ est sur terre. C'est un coin du ciel sur la terre des hommes. Alors, sauf il faut chercher à voir si nous vivons les valeurs du ciel. C'est ça la question. Il y a encore de la jalousie dans le cœur des uns et des autres, de l'amertume là. Un chrétien, encore jaloux, on se pose la question. Mais non, il n'y a pas de guéguerre là. On ne cherche pas à être qui est le plus grand. Non, ce n'est pas ça. Jésus leur a dit non, ce n'est pas mon royaume ça. Être le plus grand, ce n'est pas ce que moi je veux. Ah, si vous voulez être le plus grand, soyez le plus. Mais oui, le serviteur de tous. Et il va faire la démonstration dans Jean chapitre 13. Il va prendre une serviette, il va attacher la serviette, il va prendre un seau d'eau, il va aller laver les pieds, qui est la partie la plus, voilà, de notre être. C'est ça, être le plus grand dans le royaume de Dieu. Toutes les valeurs sont inversées. Toutes les valeurs sont inversées. Comme la lumière est le contraire des ténèbres. Toutes les valeurs sont inversées dans le ciel. Et c'est les valeurs de la grâce. Alors je termine. La dernière fois, j'ai été long, cette fois-ci, j'ai voulu être court, mais bon. Voilà. Quand Clovis, roi de France, se fait baptiser par le Monseigneur Saint-Rémy, le curé, lui a dit, « Baisse la tête, fier Sicampre. » Et les Sicampres, ce sont les peuples de la Germanie à l'époque, qui était établi à l'est du Rhin, qui avait été perturbé, détruit par Tibère au 7e, 8e siècle avant Jésus. Alors, Monseigneur Jérémie s'approche de Clovis, il lui dit, « Baisse ta tête, fier Sicampre, brûle ce que tu as adoré et adore maintenant ce que tu as brûlé. » Qu'est-ce que nous n'avons pas adoré que nous avons sommes appelés à brûler. Et qu'est-ce que nous étions censés brûler que nous avons adoré pendant si longtemps? Amener sur l'autel de Jésus. Brûler tout. vous allez voir la gloire du Seigneur. Brûlez. Quand le message de l'Évangile a été donné dans le livre des Actes, la première des choses que les magiciens ont fait, c'est d'amener leur livre de magie. Ils ont procédé à un holocauste. L'holocauste des livres magiques qui adorent le diable. Parce qu'ils étaient dans l'adoration des astres, l'adoration des anges. Et l'apôtre Paul va débarquer pour leur dire que, écoutez, moi j'ai parcouru votre ville, je regardais que vous avez mis des statuettes partout. Mais il y avait une statuette qui ne porte pas le nom d'un dieu. Mais c'est ce dieu dont il est question. Il va leur annoncer l'évangile. Brûle ce que tu as adoré. Et commence à adorer ce que tu as brûlé. Prions. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce dans ton amour. Et donne-nous, Seigneur, de prendre la mesure de cette grâce qui nous fait combien du bien. Que personne ne sorte de ce temple avec un esprit de culpabilité. Tu es notre Père. Malgré notre défaillance, malgré notre déformation intérieure, tu es là pour nous rétablir. C'est la raison qui explique à suffisance la présence de Christ sur la terre et de son œuvre à la croix et la présence de son Esprit en nous. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Dans le nom de Jésus. Amen.